Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Aujourd'hui, nous vous proposons un tout nouveau format dans cette émission, une émission cinéma tous les mois. Avec nos deux spécialistes cinéma, nous allons décrypter deux films. Cela sera un film qui prône des valeurs chrétiennes et après, en alternance, ce sera un film qui fait partie du patrimoine du cinéma français ou un film qui vient de sortir dans les salles. Et pour décrypter l'actualité cinéma, j'ai nommé les deux spécialistes en la matière, Louis-Marie Solaire à la tête de l'ouvreuse présence, l'émission cinéma de la radio depuis 36 ans. Bonjour Louis-Marie.
C'est gentil de rappeler mon âge, merci. Bonjour Timothée, bonjour à tous.
Vous allez d'ailleurs bientôt fêter la 1500e.
Oui, dans 5 semaines.
Donc c'est un bel anniversaire. Et juste à côté de vous, Paul Dima. Alors Paul Dima, comment on pourrait vous décrire Monsieur Cinéma au centre spirituel Coteau Païs? Vous animez aussi avec Louis-Marie des séances ciné-parole à l'ABC. Vous avez été formateur à l'ISCAM et à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour à vous.
Bonjour Timothée. Merci, bonjour à tous.
Merci d'être là. Le premier film que nous allons étudier aujourd'hui, c'est Drive My Car, une adaptation d'un extrait du recueil Des hommes sans femmes de Haruki Murakami. Le film raconte l'histoire d'un acteur et metteur en scène de théâtre qui fait la connaissance d'une femme. Cette femme va devenir sa chauffeur et au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé. Messieurs, merci déjà d'être là. Dans ce film, on débute avec un drame, on parle notamment du décès de la femme du personnage principal et d'adultère, et ensuite on est orienté vers quelque chose qui peut s'apparenter à de la romance.
C'est tout à fait ça, on est au carrefour des préoccupations théâtrales du personnage qu'on va suivre dans ce film. Et c'est quand, de temps en temps, il arrive que la réalité et la fiction, c'est Oncle Vania qui le monte de Tchekhov, va finir par se cogner. C'est-à-dire que cette mise en perspective des personnages, c'est là où excelle le réalisateur Yusiku Hamaguchi qui vraiment a une façon de mettre en scène, de raconter les histoires vraiment typique et qui relève d'une grande maîtrise. Il a été longtemps l'élève de Kyuichi Kurosawa, c'est-à-dire le fils d'Akira Kurosawa, le grand réalisateur japonais. Et à ce contact, il a développé cette façon de dérouler et de raconter ses histoires.
Paul Dima.
Oui. Tout à fait, et c'est un grand art que d'articuler les deux. Il y a une sorte de mise en abîme entre ce qui est raconté dans la pièce de Tchekhov, et la mise en scène qu'il fait, les acteurs qu'il embauche pour ce festival à Hiroshima, et aussi le lien avec sa propre vie à lui, c'est-à-dire que l'histoire de la pièce de Tchekhov, Oncle Vania, résonne avec sa propre histoire, résonne aussi avec son passé, mais qu'il a un peu enfoui, et qu'avec cette jeune chauffeur de taxi, il va être contraint de revisiter. Et c'est très intéressant, parce que c'est un film qui dure 3 heures.
Un long film.
Et pendant ces 3 heures, Drive My Car, c'est Conduis ma voiture, les spectateurs sont aussi conduits à revisiter tout ce qui se passe dans le film, à revisiter pour eux. Est-ce que le retour sur son passé est un lieu de reconstruction ou de destruction? On laisse le suspense pour l'instant.
Donc c'est un film qui est presque intime alors?
C'est-à-dire qu'effectivement, ça relève de l'intime. C'est quand la vie, je vais me répéter un peu, mais la vie rencontre, en fait, traverse. Quand je disais, je vais me répéter, je pensais évidemment à la pièce et aux pièces auxquelles, la pièce que monte le personnage principal et ce qui s'est passé dans sa vie. Et on découvre d'emblée, dans le film, des événements qui seront déterminants pour la suite de l'histoire, et tout ça paraît On pourrait penser que le résultat serait plutôt mortifère, étant donné les situations dans lesquelles il passe ses personnages. Et en fait, Hamaguchi se met du côté de la vie. Et c'est là que réside tout son talent dans la mise en scène. Parce que quand même, quand on lit, si on se contente de lire le scénario, le script, on se dit, il y a quoi se jeter par la fenêtre. Et effectivement, mais justement, il sait raconter des histoires, il sait mettre en scène et il aime formidablement les acteurs.
Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. C'est, au début, c'est quelque chose de très, très noir, Paul Dima. On parle d'adultère et il y a aussi le décès de la femme du personnage principal.
Il y a le décès de sa femme. Mmh. Hein, la première partie qui se joue sur 45 minutes, mais bon, le temps est dilaté dans ce film. Il y a le décès de sa femme et le rappel du décès de leur fille. Mmh. Et qu'ils ont choisi de ne pas avoir d'autres enfants. Et au décès de cette femme, eh bien, ils se retrouvent avec un vide existentiel très fort. Et on peut dire, mais alors qu'est-ce que c'est que ce film? Pourquoi on le prend pour cette émission? Eh bien, malgré toutes les péripéties de la vie, ce film a été couronné par le jury œcuménique, parce que, comme vient de le dire Louis-Marie, c'est un film qui passe à travers les ténèbres pour arriver à une forme de lumière. Et il n'y a pas de situation sans issue. C'est douloureux, les passages, mais ça fait partie de la vie et de la progression et des personnages. Et peut-être, pour les spectateurs aussi, ça montre un chemin. Drive My Car, conduis ta vie.
Il y a cette, comme le disait justement Paul, il y a cette, est-ce qu'on pourrait dire métaphore, à la vie elle-même et le fait, le côté technique pratique de conduire sa voiture. Or lui, il est dans un état tel que pratiquement il a plus envie de vivre. Il n'arrive pas à conduire sa vie. Et en fait, il y a cette métaphore qu'il a besoin finalement qu'on l'aide. Et cette aide va arriver de celle qui conduit effectivement cet homme à son travail. C'est là où c'est très réussi, parce que il a effectivement un grand vide qui s'est installé chez lui au décès de sa femme, d'autant qu'il avait appris qu'elle le trompait et qu'il ne lui a jamais dit, parce qu'il en avait été le témoin, il ne l'a jamais dit. Alors il y a, tout revient en force, et puis il y a cette jeune femme qui, elle, est mutique, ben parce qu'elle a appris à l'être, parce que la jeune femme qui conduit le taxi, elle a appris à l'être parce que sa mère est schizophrène.
Oui.
Et il vaut mieux se taire. Hein. Donc il faut partir sur la pointe des pieds. C'est deux êtres blessés, pas pour les mêmes raisons, et qui vont prendre un chemin identique, tout en étant différents, c'est ça le paradoxe, tous les matins et tous les soirs. Puisqu'elle l'amène au boulot et elle le ramène après.
Alors, ce qui est intéressant de rappeler, et ce n'est pas un détail du film, c'est qu'au départ, lui, il veut absolument, ce n'est pas un taxi, c'est sa voiture. Et il n'y a que lui qui l'a conduit. C'est une Saab, une voiture remarquable, à laquelle il tient comme à la prunelle de ses yeux. Et comme il doit monter, faire partie d'un festival à Hiroshima, on lui propose dans son contrat, vous avez un chauffeur, mais il n'en veut pas.
Oui.
Il n'en veut pas. Personne d'autre que lui n'a conduit sa voiture. Et alors, il finit par accepter, parce que de toute façon, son contrat oblige, hein, il ne doit pas prendre de risques. Et il se laisse conduire. Et c'est le début de... C'est ce qui va se passer dans la voiture. C'est-à-dire que pendant ces trajets qui sont longs, il diffuse par cassette, audio, la pièce de Tchekhov pour mémoriser toutes les répliques, parce qu'après, il va diriger les acteurs. Et il ne veut pas, au début, jouer lui-même dans la pièce, puisqu'il est le metteur en scène. Et puis, il y a des événements qui vont faire que... il va être contraint de jouer Oncle Vania. Donc, Il y a tout un jeu là où on voit qu'il est embarqué là où il ne souhaitait pas aller, mais ça va lui permettre de faire un retour sur sa vie et sur lui-même.
Il se laisse transporter quoi, finalement, et pour aussi finalement mieux affronter son passé. Je paraphrase ce que vient de dire Paul, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est coincé, il est pris par la situation. D'un côté, il va devoir interpréter Oncle Vania parce qu'il voulait pas le faire. De l'autre côté, il voulait être tranquille dans sa voiture. Il peut pas l'être non plus parce que il a les impératifs, les contrats. On sait combien ça peut être contraignant ces contrats, parce que il y a des assurances. Quand on monte un spectacle, que ce soit un spectacle théâtral comme celui qui est décrit dans le film ou même un film lui-même, il y a des impératifs économiques et les gens qui mettent l'argent, ils veulent surtout les préserver. Donc il y a ce choc entre les deux et cet homme au milieu et cette jeune fille qui est assez, quand même assez remarquable finalement, très discrète et une discrétion qui va aller au-delà. C'est-à-dire que elle est tellement discrète, elle est tellement finalement à l'écoute, qu'elle va être encore plus présente que ce qu'elle ne le serait si elle parlait beaucoup.
Donc on va partir sur une romance après entre deux personnages qui n'ont rien à voir l'un et l'autre.
Alors, romance, pas l'eau de rose.
Non.
c'est de la romance de haut niveau. Enfin, je veux dire que c'est assez... J'allais dire intellectuel, c'est pas très juste de dire ça. C'est très fin comme approche de l'âme humaine et de voilà. C'est tout en délicatesse. C'est évoqué et pas appuyé lourdement. Et ça oblige à faire attention aussi quand on voit tous les détails de ce film, les sons, les cadrages. C'est remarquablement construit. D'ailleurs, il a eu Le
prix du scénario.
Le prix du scénario. C'est
à Cannes, toujours.
Ouais, c'est ciselé. Hein,
mais c'est remarquable. C'est remarquablement écrit. Quoi. C'est lui, d'une certaine façon. Quand on écrit, j'imagine, hein, j'ai pas cette expérience et surtout pas ce talent, mais j'imagine qu'on met toujours quelque chose un peu de soi, même au moins dans un personnage, qu'il soit le personnage central ou un derrière, il y a toujours un peu ça, mais c'est très très fin, c'est amené de façon très adroite, et puis il se garde bien d'émettre le moindre jugement et il laisse toute cette part d'ombre à chacun d'eux. On n'a pas besoin de tout savoir, c'est inutile. On comprend ce qu'on voit, on le comprend, ça suffit. Il y a la différence d'âge aussi, parce qu'elle est jeune, il est déjà, comme on dit, dans la force de l'âge. Il y a tout ça qui pèse dans la balance et qui font que ce film est remarquable. Il a un talent, Hamaguchi, pour décrire les gens, les personnages dans leur vie, dans leur quotidien, quel qu'il soit, que ce soit amoureux, professionnel, il est remarquable.
Alors, par rapport au mot romance, c'est pas non plus une rencontre amoureuse. C'est une rencontre où deux personnages, par le mode de relation qu'ils ont, je veux dire... le metteur en scène et son chauffeur, sa chauffeuse, cheur, je sais pas comment on dit, chauffeur, vont à l'intime de même, mais de façon très délicate et subtile.
On marche sur des œufs.
Oui, on marche dans le respect de l'autre. Il n'y a pas d'effraction. Et ça reste jusqu'au bout du film. Et à la fin, il y a une conclusion.
Oui, qui peut laisser. Bon, oui. Peu importe. On va pas parler. Il faut pas trop en dire non plus. Mais et quand vous disiez Timothée que on marche sur des œufs, c'est pas ça. Il prend des précautions, mais il est pas précautionné au point. Attention, il faut ménager. Non. Il est délicat. Il a pas besoin de marcher sur des œufs parce qu'il le fait naturellement. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui est fort. On sent pas de précautions prises par lui pour raconter son histoire et décrire la situation. Simplement, c'est naturel. Et comme c'est naturel, ça passe.
Oui. D'autant plus que Louis-Marie, tu as tout à fait raison. C'est sa façon de filmer qui fait qu'il peut aborder des situations lourdes, difficiles, simplement, sans en rajouter sur du pathos, sur je ne sais pas quoi. Mais il y a des moments violents, enfin des moments difficiles.
Oui, parce que c'est un enchevêtrement de tragédies personnelles qui sont, ils sont pesantes, on en a déjà parlé, mais tout ça c'est tout mélangé, il faut tirer, et on arrive à démêler, et comme je me répète, mais ça vient naturellement, il y a quelque chose, oui c'est un drame, certes, mais il y a quand même un peu d'optimisme, même un peu plus que de l'optimisme. Oui. Il y a une confiance en la vie. Quoi.
Et puis, c'est une autre culture. Oui. Et il y a un appel très important à l'imaginaire. Sa femme qui meurt est une scénariste qui invente des histoires, et elle le fait souvent quand ils ont eu une relation sexuelle. Et lui doit s'en souvenir parce que après elle se souvient plus de ce qu'elle a dit. Donc il l'aide à accoucher entre guillemets de ce qu'elle crée, qui est dans l'imaginaire mais qui rejoint d'une certaine façon le réel aussi. C'est même un côté un peu surnaturel. Elle parle d'une lamproie qui ne se nourrit pas des autres poissons mais qui se greffe sur des galets pour se nourrir, mais elle maigrit à vue d'œil et elle va mourir. Et sa femme meurt. Mmh. Et lui est héritier de tout ça. Et il, comme metteur en scène, il fait un casting des acteurs qui vont jouer la pièce de Vania. Et parmi les gens qui se présentent au casting, il y a un jeune acteur que... on devine et que on a à peu près à coup sûr avoir été l'amant aussi de sa femme. Mais il n'en dit rien. Il ne dit pas qu'il sait. Et la chose reste en arrière-plan.
Pour revenir à la culture, c'est peut-être probablement pas de cette façon qu'aurait été tourné le même film par un réalisateur européen ou occidental, tout simplement. Mais à propos de j'ai là la citation même de ce qu'on entend dès le début du film, c'est de cette femme qui sait raconter des histoires et qui les raconte après avoir fait l'amour. Donc c'est à la fois teinté d'érotisme, évidemment, de mystère, bien sûr. Dans une vie antérieure, elle était une lamproie. Ni poisson ni anguille, ne se nourrissant pas de parasites comme les autres lamproies, mais suçant les cailloux avec sa bouche ventouse. Elle maigrissait de jour en jour. Elle raconte des histoires et elle les raconte vachement bien, permettez-moi l'expression, et ça déteint. Elle est scénariste, donc elle sait raconter des histoires, et lui, il reçoit ces histoires, il les reçoit. Et après, il en raconte d'autres, mais il se fait avec ça. Et le secret est... Le mensonge, peu importe. Il n'y a pas de mensonge. Mmh. Ou alors c'est par omission, et encore lointain, mais il n'y en a pas.
Est-ce qu'on peut dire que ce film, c'est une lente renaissance du personnage principal ?
Des deux.
Mmh. Des deux ?
Des deux. Parce qu'on découvre chez la jeune Misaki, le chauffeur, toute une partie du film, elle ne dit rien. Mmh. Elle ne dit rien. Et puis, progressivement, il lui demande un jour d'aller dans son village, à elle, où sa mère est morte, ensevelie dans la maison par une coulée de boue. Et elle avoue après, elle lui dit « j'ai tué ma mère parce que au premier glissement de boue, je n'ai rien fait et au deuxième, la maison a été engloutie ». Et elle vit ça, cette culpabilité-là, et elle le dit, elle avoue, et ça la libère en même temps, ça la libère.
C'est un magnifique personnage. Mmh. Les deux sont beaux, mais j'ai beaucoup plus tendresse pour elle que pour lui, même s'il n'inspire pas l'antipathie. La question n'est pas là, mais c'est le cheminement qu'elle a est assez extraordinaire au sens propre du terme, hors du commun. Et elle arrive à sortir de ce drame qu'elle a vécu et de la vie très difficile qu'elle a eue jusqu'à présent, et pourtant elle est jeune. D'une façon, comment dire, j'en reviens toujours à la même chose, d'une façon naturelle. Et puis il y a la voiture aussi. La voiture, on se confie quand on roule, on se confie quand il faut s'arrêter pour différentes raisons, on se confie quand on est appuyé, justement. La voiture fait partie du décor. Elle a un rôle important. Et c'est d'ailleurs le titre du film, Drive My Car. Et en plus, c'est une voiture à laquelle il tient comme à la prunelle de ses yeux, et c'est pas lui qui l'a conduit. Il doit se laisser faire. À tous les points de vue, il doit se laisser faire.
Alors, il y a des petits clins d'œil qui sont amusants aussi. Au début, c'est clairement lui et derrière, et il est conduit par la personne qui conduit sa voiture. Et puis, vers la fin du film, il est devant, à côté d'elle, mais en même temps, la distance est réduite, mais parce qu'il y a de l'intime qui se joue, mais la distance demeure. Ils sont à la juste place, l'un et l'autre. Il n'y a plus la chauffeur et le personnage officiel qu'elle conduit. Ils sont tous les deux en position frontale, devant vers quoi ils vont.
Paul, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un film qui porte des valeurs évangéliques. Dans quelle mesure? Qu'est-ce qu'il nous apprend, ce film?
Alors, il nous apprend, il dit, parce qu'après on apprend ce qu'on veut recevoir, il dit qu'il n'y a pas de situation désespérée et que la perfection de la vie n'est pas la vie parfaite, si j'ose ce chiasme. C'est-à-dire que quoi que l'on vive, il y a toujours un chemin possible, à condition d'accepter de passer à travers ses limites, à condition de pouvoir en parler, les confier, et il y a une paix à ce moment-là qui s'installe, si l'accueil est aimant, bienveillant. Et c'est la grande... je crois que c'est ce que le jury œcuménique, enfin j'ai regardé aussi, a voulu honorer. Il y a un chemin de vie qui passe par l'épreuve, mais pour un mieux vivre, mieux être. Et il n'y a pas de jugement.
Tout est là.
Tout est dit. On arrive à la fin de cette première partie d'émission. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose une pause musicale, ce sera la seule de l'émission, qui va nous apporter beaucoup d'informations sur le deuxième titre et le deuxième film qu'on a choisi. On écoute tout de suite « À bicyclette Yves Montand ».
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le le soleil à l'horizon, profilé sur tous les buissons, nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague, pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Présence.
Vivante Église. Timothée Rouvière.
Et j'ai toujours le plaisir d'être avec Louis-Marie Solaire et Paul Dima, nos deux spécialistes pour cette émission cinéma dans Vivante Église. Louis-Marie, le titre qu'on vient d'entendre, À bicyclette d'Yves Montand, c'est un titre qu'on retrouve dans le film qui nous intéressait tout de suite, c'est Alceste à bicyclette.
Eh oui, Alceste à bicyclette de Philippe Leguet, où l'histoire de deux acteurs, en fait, l'histoire d'un acteur retiré du monde et un autre qui est à la mode, lui, qui est l'inverse, qui est sous les projecteurs, les sunlight. Et tous les deux se retrouvent dans la lumière plutôt agréable de l'île de Ré. Vous me direz, ça fait un peu cliché quand même. L'île de Ré, des acteurs, une bicyclette, on ne roule qu'à bicyclette pratiquement sur l'île de Ré. Mais c'est un peu ça. Alors il y a une élégance parisienne pour l'un qui semble toujours, quand on le voit, on a l'impression qu'il sort de scène. Vraiment, c'est l'impression qu'il donne. Toujours parfait. Et qui retrouve un autre qui est... qu'on pourrait dire qu'il s'est installé, qui est devenu homme de la campagne, gentleman farmer, même pas, puisqu'il cultive rien. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça aussi, c'est emprunté. Tout ça reste, on se rend compte qu'on est acteur, sur les planches, on est acteur aussi en dehors des planches. Et qui s'est retiré, justement, qui était célèbre, qui s'est retiré du métier parce que le show business, l'insupporte, il aime pas les rapports dans le show business, et il se trouve que, alors là c'est plutôt ironique, que le premier vient retrouver l'autre dans sa retraite ilienne pour lui proposer de monter sur les planches, et pour monter quoi? Le misanthrope. Alors le misanthrope, alors que lui s'est retiré du monde, il y a, voilà, et on va découvrir les relations entre ces deux hommes. Alors quand vous saurez que celui qui est retiré du monde est interprété par Fabrice Lucchini, ça lui va comme un gant, et que le fringant, le sémillant, celui qui sort de scène toujours avec allure, c'est Lambert Wilson. Philippe Leguet, le réalisateur du film, a tapé juste dans la distribution. Il n'a pas eu beaucoup de mal pour Lucchini, parce qu'ils sont amis de longue date. Il apparaît dans la plupart de ses films, si ce n'est pas tous. Lambert Wilson, il est ami aussi, mais pas de la même façon. Et en tout cas, il les a mis en scène tous les deux pour cette histoire qui va se révéler être un affrontement entre deux hommes. Et on en parlait hors micro. S'ils avaient eu des armes, ils s'en seraient servis. Là, ils utilisent les mots. Pour nous, c'est finalement tout aussi intéressant et moins sanglant. Même si Philippe Leguet, j'ai lu ça, se réfère à deux films pour les moments où justement il va y avoir les joutes verbales entre les deux et qui vont monter en puissance. Alors tenez-vous bien, il a pensé au duel de Barry Lyndon de Stanley Kubrick, et de Scaramouche de George Sidney, le fameux film hollywoodien où là aussi on sortait facilement l'épée et le sabre ou le fleuret.
Oui, tout à fait. Et là encore, il va y avoir, comme différemment, mais c'est un peu la même dynamique, il va y avoir un rapport très étroit entre la pièce de Molière, la personnalité des deux acteurs et ce qu'ils ont vécu. Et tout se joue, alors c'est très resserré, ça se joue sur une scène de la pièce, Et Lucchini dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer Alceste. Et Wilson dit, ah bah oui, enfin non, moi je pensais faire Alceste. Et donc, il y a à la fois une vénération de l'autre. Wilson, dans, enfin, celui qui joue Gautier, Wilson, reconnaît que dans sa vie de comédien, il a reçu énormément de Lucchini. Mm. Et donc, il l'admire. Il admire, mais en même temps, il en est très jaloux. Et comme Lucchini ne veut pas lâcher le morceau, il dit ben, on va faire un contrat. Ok, si tu acceptes de jouer, parce qu'ils se donnent 5 jours pour décider. Mmh. Ils vont faire des répétitions, mais il faut qu'ils prennent une décision, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas. Et il dit ben, moi je te propose un truc, on fait chacun un tour de rôle, Alceste ou Philinte. Une semaine, c'est l'un, une semaine, c'est l'autre. Et il dit, bah, ça s'est jamais fait, un truc pareil. Il dit, bah, justement, on va faire comme ça. Donc, il accepte, bon gré mal gré, le personnage joué par Lucchini. Mais on sent bien que derrière, ça ne lui va pas du tout. Mm. Et alors, les répétitions sont des joutes verbales affleurées, non mouchetées. C'est-à-dire, il se renvoie toujours des trucs un peu vachards, mais tu dis beaucoup trop vite, enfin, c'est pas bien comme ça, ou t'articules pas. Et Molière, c'est pas une pièce contemporaine, parce que on sent que Wilson, qui joue dans des feuilletons télévisés et tout, voudrait moderniser un peu la façon de jouer la pièce aujourd'hui. Et Lucchini, qui est un obsessionnel de la métrique des vers chez Molière, dit « Mais alors, si on fait ça, c'est n'importe quoi, c'est plus du Molière. Autant, voilà. » Donc, ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses. Et c'est un peu à la fois sadique et pervers. Leur dialogue, c'est-à-dire qu'ils cherchent à chaque occasion comment reprendre le pouvoir sur l'autre.
Oui, parce que clairement l'un, celui qui est venu, cherche à redorer son blason. Oui. Paul a souligné qu'il était connu, qu'il était célèbre, mais pour des séries télévisées. Mmh. Et
De peu de qualité.
Bien sûr, évidemment. Et donc, ce qui fait qu'il veut redorer son blason en montant sur les planches. Et quoi de mieux que monter du théâtre classique? Et il a besoin d'un nom, en fait. Et il va chercher cet homme qui est son copain, donc, évidemment. Et l'autre, avec la mauvaise voix aussi, qu'il caractérise, lâchera pas le morceau, quoi. Alors, tout est bon pour arriver à ses fins. Que ce soit pour l'un comme pour l'autre, parce que celui qui est retraité, d'une certaine façon, en fait, c'est une retraite contrainte, j'arrive, et parce qu'il a quitté, le milieu il est bravache, quoi. Il a des gestes théâtraux, quoi, voilà, et il aurait peut-être bien envie de reprendre un petit coup de collier et surtout un petit coup de célébrité. Ça fait du bien à l'ego, parce qu'ils ont tous les deux des égos surdimensionnés. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et Lucchini, enfin le personnage joué par Lucchini, a quitté aussi le milieu et a eu après une dépression importante. C'est-à-dire qu'il ne s'en est pas bien sorti. Il a loupé sa sortie de scène, si j'ose dire.
Et oui, c'est compliqué. Ils sont là tous les deux à des moments qui sont clés dans leur vie. Alors après, Philippe Leguet leur adjoint quelques personnages secondaires pour transformer un petit peu cet affrontement en comédie et nécessairement arrive dans ce duel fratricide, on pourrait le qualifier comme une belle jeune femme italienne qui ne va pas arranger les choses entre les deux.
Oui, parce que évidemment, ils sont tous les deux amoureux en secret de la même personne.
Et qui est là, elle, simplement parce qu'elle a une maison...
À vendre.
À vendre sur cette île, je crois qu'elle divorce, mais peu importe. Oui, elle est là pour vendre la maison.
Pour liquider cette maison.
Et il se trouve qu'ils sont voisins. Donc il va y avoir. Alors on rajoute aussi la dame qui les fait manger, la restauratrice. Oui. Il y a qui d'autre ?
Il y a le chauffeur de taxi.
Le chauffeur de taxi.
Auquel
baratineur un petit
oui,
peu.
Oui. Baratineur, mais auquel Wilson. Enfin, il dit vous êtes
admirateur. Un petit
oui,
peu.
Admirateur de cet acteur. Il dit, mais j'ai ma mère qui est gravement malade et qui a besoin d'être opérée. Oh, il dit, pas de problème, moi je téléphone au chirurgien de Bordeaux, il vous fait ça tout de suite. Et puis, de fait, il téléphone. Alors, on suppose qu'il téléphone au chirurgien, et puis en fait, rien ne se passe. Et au bout d'un moment, le chauffeur de taxi... Il dit, ben, y a toujours rien, hein, enfin, de vous en foutez pas mal de ma mère et tout ça. Et il y a une bagarre en plein, en plein marché, après la diffusion d'un des épisodes où Wilson joue un cardiologue qui sauve une personne. Et lui dit, en fait, vous en foutez complètement des gens, hein, y a que vous qui. C'est tout pour vous. Et alors, ils ne supportent pas ça, et là-dessus, ils se battent. Et les gens. Qui sont admiratifs du comédien, sont atterrés de voir qu'ils se battent comme des chiffonniers.
Effectivement, le prestige en prend un coup.
Oui.
Louis-Marie, vous avez sélectionné deux extraits de ce film Alceste à bicyclette. Je vous propose d'écouter le premier et vous nous expliquerez pourquoi vous l'avez choisi.
Ça, c'est marrant. Je sais pas pourquoi... J'ai beaucoup pensé à toi récemment. Je me suis demandé ce que tu devenais.
Bah, tu vois, je suis en pleine forme.
Et puis, je me suis souvenu de conversations et je me suis dit, Serge pourrait peut-être lui proposer quelque chose.
Ça n'a rien à voir avec le métier, j'espère.
Un peu quand même, si.
Ah, c'est pas la peine d'essayer, tu sais. Pour moi, c'est fini le cinéma. Hein. Même si c'est Spielberg qui vient me proposer le scénario. Regarde ce que j'en fais, je les fous au feu.
Ah non, mais je te parle pas de cinéma. Je te parle d'une pièce.
Mais quoi, une pièce?
Oui, si je te proposais une pièce.
Alors, tu veux dire un rôle dans une pièce?
Oui, évidemment, un rôle dans une pièce.
T'es complètement malade. Ça fait des années que je suis pas monté sur les planches, enfin. C'est fini pour moi, c'est terminé, tout
ça. Attends que je te dise le nom de la pièce.
Mais j'ai pas envie de connaître le nom de cette pièce. Je te dis que c'est terminé. Le théâtre, le cinéma, tout ça, c'est fini. Ce monde de rats, ces gens vulgaires qui mentent, qui trahissent, enfin non.
Tu exagères, il y a encore des gens qui se comportent bien.
Ah, oui, qui ça par exemple? Est-ce que t'as un nom?
Moi, je me comporte bien.
Toi? Oui. Bon, bah, alors, admettons, disons que t'es l'exception.
Ça vous fait rire, le
Oui, mais bien sûr que ça fait rire. Parce que cette scène, c'est une des scènes introductives, c'est une des scènes du début du film. Et dans cet échange, on a tout. On a tout ce qui déterminera ce qui va se passer par la suite. L'un clame qu'il est parti et qu'il n'y reviendra pas, même si Spielberg arrive avec un grand renfort. D'effet de manche, pardon. Et l'autre insiste, mais non, ils sont pas tous comme ça, moi je suis différent, non. Et puis bon, c'est peut-être un peu énorme, un peu gros, mais on est là cette limite, cette frontière entre le théâtre classique, l'affrontement du théâtre classique et la commedia dell'arte, finalement, puisqu'il y a une italienne. Alors, continuons les comparaisons et allons-y. Alors là, on se donne des coups. On a bien envie que ce ne soit pas des coussins. Je me répète peut-être, sans doute, mais on s'enfile. Et là, ça commence, on sent. Et on sent que ça peut aller très, très vite et très, très haut, très, très loin.
La rivalité tient au fait que... L'un et l'autre veulent jouer le rôle principal. Et il se trouve que chacun a d'excellentes raisons de penser qu'il a raison. Et donc, ils prennent des chemins détournés pour saper la prétention de l'autre. La prétention de l'autre. Et je ne sais pas si on peut dire plus loin, avancer vers la fin du film ou pas. Je te vois hésitant, Louis.
Oui, oui, je sais pas, un petit coup de pédale. puisque quand même, le titre, c'est Alceste à bicyclette, oui. Donc on y fait du vélo, et on y fait du vélo à la façon d'Yves Montand, en tout cas tel que Montand le chantait, on vient de l'entendre. Et pourquoi faisaient-ils du vélo, ces gens-là? Parce qu'il fallait impressionner, et puis il fallait être celui qui prendrait la jeune femme sur son vélo. Même pas sur le porte-bagages, hein, plus près que ça.
On va écouter un deuxième extrait de ce film et vous nous expliquerez pourquoi vous l'avez choisi.
Comme ça, par curiosité, c'est quoi la pièce que tu voulais me proposer?
Le Misanthrope.
Tu vas mettre en scène le Misanthrope?
J'ai le théâtre, la production et je commence la distribution dans 2 semaines.
Le Misanthrope. Rien que ça. Pour ta première pièce, t'attaques le Misanthrope.
C'est ma pièce fétiche. J'ai toujours rêvé de la jouer.
Et tu me proposes le rôle d'Alceste.
Alors, tu te souviens de nos conversations en Hongrie? Tu me disais qu'Alceste croit encore qu'il peut changer les gens. Il pense qu'en leur disant la vérité, il peut les faire bouger. En fait, c'est un optimiste.
Je comprends pas où tu veux en venir.
Tu me disais aussi que c'est Philinte, le vrai pessimiste. Lui, il a compris que ça ne sert à rien de se battre contre la société et qu'il faut accepter les règles sans les remettre en question.
Oui, alors?
Alors, je voulais te proposer Philinte.
Tu veux que je fasse Philinte?
Eh ben oui, Philinte. C'est quoi le problème?
Ça fait plus de 3 ans que j'ai pas mis les pieds sur une scène. Toi, tu débarques et tu me donnes Philinte. C'est courageux, hein, de me dire.
Attends, c'est toi qui me disais que Philinte, c'est le grand personnage de la pièce.
C'est un beau personnage, mais c'est un second rôle. Il a 5 scènes. Le vrai morceau, c'est Alceste. C'est le rôle le plus compliqué de tout le théâtre classique français. Toi, t'as jamais joué Molière, t'as jamais fait de théâtre, et tu t'offres Alceste.
Écoute, personne me donne un rôle, alors je le prends, c'est humain.
Tu sais que Jouvet se sentait même pas mûr pour jouer Alceste. En 30 ans de carrière... Allez, je sais même pas pourquoi je discute avec toi.
On sent une vraie rivalité entre les deux.
Ah ben là, c'est les deux scènes. Enfin, c'est le début du film. Voilà, tout est dit. On voit très bien ce qu'est l'un, ce qu'est l'autre. Et puis après, on a qu'à se laisser aller, suivre. Parce que finalement, si on n'est pas très, très au fait du théâtre de Molière, on suit tout à fait facilement cette histoire. On comprend vite qui est Alceste, on comprend vite qui est Philinte, et le clin d'œil, oui, le clin d'œil est de rendre, pour Philippe Leguet, de rendre ça palpable, et finalement le théâtre classique devient quelque chose qui relève, c'était de la comédie, de toute façon, Molière l'écrivait pour ça, mais très abordable et qui peut cristalliser justement des rivalités. C'est pas un hasard aussi qu'il ait choisi Alceste à bicyclette pour le titre de son film.
C'est de la comédie, c'est aussi le rôle du théâtre d'offrir une possible catharsis, c'est-à-dire que on voit représenter sur une scène, donc on joue, hein, c'est que du jeu. Et quelque chose qui renvoie de façon très très pointue à la réalité, non seulement des personnages, mais de ce qui se vit. Et on voit bien qu'il y a d'un côté la tartufferie, les grands, voilà, l'adoration du public, l'adulation et tout. Et puis de l'autre côté, celui qui met un peu de l'acide dans tout ça, et le misanthrope. Mais en fait, c'est le misanthrope qui est juste. C'est-à-dire qu'il dénonce, alors de façon exagérée ou enfermée dans ce reproche, les travers humains. Il en est malheureux aussi, il est malade, mais l'autre aussi est malade d'être gonflé de lui-même. Et c'est ce qui est en jeu dans ce partage des rôles. Et le personnage joué par Lucchini, la Serge, ne veut pas endosser le second rôle, qui n'a que 5 scènes.
Il insiste bien là-dessus. C'est 5 scènes.
C'est rien.
Oui,
puis c'est moi le vrai comédien.
C'est pas assez pour lui, oui.
Toi, t'es un acteur de cinéma.
Oui, voilà. Et puis toi, tu
connais rien au théâtre.
Il convoque les illustres anciens. Il va chercher Jouvet pour dire. Même Jouvet ne voulait
30
pas.
Ans après.
30 ans après, ne voulait toujours pas jouer le rôle d'Alceste.
Pour alors qui d'Alceste. Es-tu pour prétendre à ça?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Philippe Le Guay aussi se fait plaisir à les faire se rudoyer. Il pourrait les faire parler en vers, ça serait pareil. Mmh. C'est exactement. Puisque de toute façon, il y a les vers aussi, au moment où il répète la scène, mais quand il se parle, c'est ça. Alors c'est une comédie désabusée, plutôt, hein, voire cynique. Mmh. Sur quoi? Sur l'orgueil. C'est l'orgueil de ces deux mecs-là, sur l'hypocrisie aussi. Parce qu'il y en a un qui est retiré, l'autre, ils ont, je l'ai déjà dit, un gros melon. Quoi. Mmh. L'ego, il prend toute la place. C'est pour ça que quand ils sont dans la même pièce, ils ne peuvent pas être ensemble. Hein. il n'y a pas assez de place pour les deux.
Mmh. Paul Dima, vous disiez qu'entre les deux films, que ce soit Drive My Car ou Alceste à bicyclette, il y a un lien, un fil conducteur.
Oui. Le lien, c'est l'interaction entre l'art, ici le théâtre, d'exprimer dans son registre propre quelque chose de la vie auquel on est confronté. Et donc, l'art vient nous révéler à nous-mêmes ce que nous sommes. La différence, c'est que dans le premier film, ça aboutit sur un... possibilité de vivre et de vivre mieux. Et dans le second film, ça aboutit sur un échec pour les deux. C'est-à-dire que le projet se casse la figure, donc le personnage joué par Lucchini se retrouve seul sur son île abandonnée, et le personnage joué par Wilson se plante en scène. Il bute sur un mot qui n'était pas dans le texte et dont son partenaire lui avait dit « Mais là, c'est pas du Molière. Hein, c'est pas ce qui est écrit dans le texte. » Et tout d'un coup, il se rend compte dans sa réplique qu'il a dit le mot qui n'était pas dans le texte et il est perdu.
Et du coup, il a un trou.
Mmh.
Il n'arrive pas à retomber sur ses pieds.
Et donc, c'est... Il joue devant, il n'est plus en répétition là, hein, il est sur la scène de théâtre et il se plante.
Et le film japonais d'Amaguchi est finalement beaucoup plus positif, il commence beaucoup plus noir au départ, mais beaucoup plus positif à la fin que ne l'est ce film-là. Parce que finalement, les deux hommes se retrouvent comme ils étaient avant. Il n'y a pas de changement, rien.
Encore plus isolés.
Oui, parce qu'en plus, ils se sont bien crêpés le chignon. Donc, est-ce qu'ils avaient un soupçon d'amitié tous les deux? Ils n'en ont plus, là. C'est fini.
Ah oui.
Terminé.
Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve l'agenda de l'Église dans votre région.
Église Actualité. Timothée Rouvière.
Débutons cette église actualité avec le diocèse de Rodez qui propose de participer à la fête de Notre-Dame du Rosaire. Rendez-vous est donné à la basilique et à la maison du sanctuaire de Seignac, vendredi à 18h30. La pastorale familiale diocésaine et l'association familiale protestante Agapé organisent un parcours Alpha Couple avec une première rencontre autour d'un repas en tête-à-tête. Il y a deux rencontres à 12h30 et à 20h. Rendez-vous à Auch vendredi. Renseignements au 06 41 67 95 56. 06 41 67 95 56. Ou sinon, vous pouvez envoyer un mail à alphacouple32@free.fr. Alphacouple, A-L-P-H-A, couple@free.fr. Et vous rajoutez un petit 32 juste après couple. Le diocèse de Tarbes et de Lourdes propose de son côté la conférence témoignage avancée fort de nos fragilités par Clotilde Margotin, accompagnatrice en sortie de crise personnelle et auteur de « Se relever toujours », c'est son dernier livre. La conférence a lieu vendredi à la salle paroissiale Saint-Pierre de Lourdes à 20h30. Une autre conférence organisée cette fois-ci par la paroisse de Figeac. La conférence s'intitule « L'Église et Jésus, c'est pareil » avec le père Stéphane Aubuljo. Rendez-vous est donné vendredi à 20h30 à l'espace Ozanam, 12 rue de l'Étang à Figeac. Information sur www.paroissedefigeac.fr. www.paroissedefigeac.fr. C'est la fin de cette Église Actualité. Rendez-vous demain pour un nouvel agenda de l'Église dans votre région.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup à Louis-Marie Solaire et à Paul Dima d'être intervenus. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. On parlera de la restauration du dôme et de la chapelle de la Grave. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.